GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurément humain. Conditions de l'offre et du contrat Autopass en agence GMF.
RMC.
Info, talk, sport.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. Et oui, émission exceptionnelle aujourd'hui avec un invité exceptionnel, c'est Pablo Longoria dans quelques secondes, le magicien El Mago qui est là. Et pour faire toute cette interview, cet échange, bien sûr, je ne suis pas tout seul. Je suis bien entouré, comme d'habitude, à commencer par le pilier, c'est Jean-Louis Tour. Salut Jean-Louis.
Salut Jérôme, salut tout le monde.
Ça va ?
Ouais, bah quand on a un gros invité comme ça, ça va très bien.
C'est bien, ça va. On va se régaler. Puis en plus, on a la crème de la crème au niveau des consultants. On a Juninho, la star planétaire. Salut Juni.
Salut Jérôme, salut à tous, ça va ?
Ça va et toi ?
Ça va bien, merci mon gars.
Bon, bah tant mieux. On en a... On a notre légende, hein. Voilà, notre légende, c'est Jean-Michel Larquet. Salut Jean-Mi.
Bonjour à tous.
Salut.
Ça
va ?
Oui, très bien.
Très bien. Après Michel Platini, on est gâté, hein, Jean-Michel.
Ah bah oui, ça va être dur, il va falloir se mettre au niveau. Pourtant on est au max, mais il va falloir faire encore mieux.
Et oui, car ce soir Roten sans flamme donc sur l'OM, Pablo Longoria, invité exceptionnel dans une seconde. 32-16 pour poser vos questions, pour débriefer l'interview. On est en direct, donc allez-y, n'hésitez pas, supporters de l'OM. À 19h, journée spéciale Coupe du Monde sur RMC. Qui est l'attaquant le plus indispensable au bleu ? Nouveau résultat du sondage qu'on vous détaille tout au long de la journée sur RMC. Vous allez pouvoir venir au 32-16 pour débattre et commenter les résultats étonnants de ce sondage. Et puis on a toujours les 2000 euros qui vont vous permettre de passer à l'électrique. 2000 euros pendant un an pour investir dans l'électrique. Mais pour cela, il faut être très attentif et être capable de reconnaître un moteur thermique et électrique. Écoutez bien ça. Si vous êtes capable de répondre, vous envoyez voiture par SMS au 732-16. L'événement, c'est tout de suite dans Roten sans flamme. Pablo Longoria, le président de l'OM, est dans Roten sans flamme.
Bonjour, président.
Bonjour à tous.
Ça va, Pablo ?
Ça va.
Tout va bien. Bon, depuis, on s'est croisés au Parc des Princes après la défaite de l'Olympique de Marseille, mais vous alliez bien, vous étiez un peu contrarié par le résultat.
C'est toujours normal d'être contrarié dans les moments que tu perds un match. C'est jamais bon, spécialement dans une culture de football qu'on peut créer, c'est lequel dans lequel on croit que la chose la plus importante, c'est les résultats, non ?
Oui, bien sûr. Bah, on va parler des résultats, ce bon début de saison. Vous le placez comment, ce début de saison, dans vos espérances, dans vos ambitions, à la hauteur de vos ambitions, au-dessus de vos ambitions ? Parce que bon, vous êtes quatrième de Ligue 1 à 3 points de la deuxième place. Vous êtes maintenant à 6 points en Ligue des Champions après 4 matchs et bien placé encore dans la course pour se qualifier en 8e de finale. C'est pas mal, non ?
On peut dire que c'est un commence de la saison que pour nous, on peut analyser dans de différentes façons. Non, on commence de la saison extraordinaire, avec un niveau de ponctuation qui était très haut, avec un niveau de déception dans les championnats, que c'était les matchs d'Ajaccio, que c'était difficile à digérer, je crois que pour tout le monde. Avec un match contre Paris Saint-Germain, que naturellement, on connaît le niveau de l'adversaire, le niveau des matchs, mais dans lesquels on est déçu du résultat. Il y a des questions positives à tirer dans les matchs. Après, en championnat, ce sont 38 journées. Non, en championnat, c'est toujours la régularité et comment tu arrives à la fin de la saison. Avec un parcours européen, qui pour moi, on doit considérer que ce sont des compétitions complètement différentes. Et c'est aussi comment on croit d'affronter ce type de compétition avec ambition différente. Un championnat de Ligue 1, que c'est la régularité, et un championnat européen de Champions League dans lequel tu dois dépenser beaucoup d'énergie à niveau physique et psychologique.
Président, moi j'ai une question parce qu'il y a beaucoup de supporters qui interviennent dans mon émission très souvent, les supporters de l'Olympique de Marseille. Et moi j'ai été assez dur avec l'OM après les deux premiers matchs de Ligue des Champions parce que quand il y a deux matchs de défaite, c'est sûr qu'on attend mieux du deuxième club français. C'est quoi vos ambitions en Ligue des Champions ?
Toujours arriver le plus loin possible. Je crois qu'on a une équipe compétitive, un modèle de jeu compétitif. Notre ambition, c'est toujours autour de notre identité de jeu, comment on joue avec ce jeu physique, que ça te permet de réduire les distances entre les équipes techniques, parce qu'on sait parfaitement quelle est notre position dans tout l'univers européen avec la différence de club. Non, il faut toujours se poser les bonnes questions, jouer avec l'ambition pour arriver le plus loin possible dans la compétition.
Alors, pour revenir à ce plan de jeu, ce que vous mettez en place, vous avez donc changé d'entraîneur parce que Sampaoli a démissionné. Est-ce que Igor Tudor a répondu et répond à vos attentes alors que ça avait commencé très mal, hein. Franchement, j'étais pas trop fan, moi, au début, un petit peu comme l'ensemble des supporters marseillais avec tout ce qui sortait. Je trouvais qu'il était un peu trop dur des entraîneurs trop durs aujourd'hui. Je pense que ça ne peut pas durer. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à tout ça?
On prend le général, non? Je comprends perfectement les doutes dans un commence, spécialement en équipe qui finit le championnat deuxième. C'est normal de se poser des questions si c'est le bon moment de changer, si les changements sont nécessaires, aller dans une direction qui était différente à laquelle qu'on avait proposé la saison dernière. C'est normal d'avoir des changements, mais c'est normal aussi d'avoir des gens qui ne comprennent pas les changements et c'est difficile à accepter. Ça, c'est une question que c'est humaine. Dans le même temps, je considère aussi qu'il est au niveau des attentes qu'on avait. On voulait ce type de jeu, on voulait ce type d'identité de jeu avec un jeu beaucoup plus vertical, beaucoup plus agressif, on peut avec beaucoup plus nombre d'accélérations, naturellement avec la technique, non, parce que le football, c'est aussi une question de niveau. Mais on voulait aussi ces changements dans la mentalité, avoir un entraîneur plus duré. Je comprends tout à fait les difficultés à accepter une méthodologie un peu
Pablo,
plus
pourquoi plus dur, dur. Pourquoi plus dur Sampaoli, ce n'était pas assez strict?
Non, chaque entraîneur, il a sa méthodologie, il a sa mentalité, il a sa façon de gérer un groupe. Non, Jorge, c'est quelqu'un qui dit... Pour moi, la chose la plus importante, c'est le résultat, où on se retrouve dans une façon très claire. Mais surtout, Jorge, c'était quelqu'un qui gérait en groupe beaucoup dans la gestion individualisée des différents joueurs. Après, un comme moi, qu'il arrive d'avoir une formation en Italie pendant 9 ans, et avoir une méthodologie de travail très dure, pour pouvoir rechercher à Valence, ça, c'était quelque chose que je voulais. Faire un projet avec tous mes collaborateurs qui était plus ça dans les choses qu'on croit vraiment et les choses qu'on transmet avec la passion. Non, parfois, avoir ce niveau d'exigence, que ce soit haut, ce niveau de dureté, ce niveau d'alimentation, de contrôle, sont des choses que, pour moi, sincèrement, pour faire du football aujourd'hui, sont très importantes.
Il est 18h08, vous êtes sur RMC dans Rotten sans flamme avec Pablo Longoria, le président de l'OM, est en direct pendant encore plusieurs dizaines de minutes. Sachez qu'on a deux places à vous offrir pour Marseille-Tottenham en Ligue des Champions. Un cadeau énorme. Appelez le 32-16 si vous êtes intéressé, vous pourrez peut-être gagner une de ces places. Jean-Michel, avec Pablo Longoria.
Oui, Pablo, style de jeu affirmé, avec, on l'a vu, notamment au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain, peut-être quand même un peu de naïveté et quelques regrets quand on prend ce but en s'offrant aux Parisiens pendant le temps additionnel de la première période. Il y a peut-être chez vous beaucoup trop de, comment dirais-je, beaucoup trop d'enthousiasme et parfois pas assez de calcul.
C'est une bonne question et je partage ce type de vision, spécialement parce qu'on doit faire des analyses du match. Une analyse que c'est les quelques autour de ce modèle de jeu, on a réduit les distances, spécialement parce que je considère que le football, il vit en évolution physique très importante. Mais la deuxième question, c'est une question aussi d'un processus de maturité du club, de croire en ce que tu fais. La parole, c'est maturité. Je vais mettre des différents exemples, non? Parce qu'il faut être autocritique dans la vie et bien analyser les matchs. On a joué 10 contre 11 pendant longtemps. Et c'était un moment qu'on était supérieur dans le terrain et on croyait qu'on pouvait. Ça, ce n'est pas une équipe mature. Une équipe mature, tu connais tous les armes d'une équipe comme le PSG, tu connais tes défauts, tu connais tes armes. La chose normale, c'est de faire sortir le ballon, on se calme, on continue à jouer 11 contre 11. Deuxième question, que c'est important. C'est la gestion des moments. Dans un moment que tu te vois supérieur, on a fini avec un défenseur central qui était sur la surface adverse. on a souffert en première contre-attaque, tu dois comprendre qu'il est la meilleure arme de PSG. C'est les contre-attaques après que tu perds le ballon. On a souffert en deuxième contre-attaque. Ça, c'est une question qu'on peut dénominer maturité dans les jeux. C'est une question que c'est en évolution, c'est un processus, c'est une équipe. Il ne devient pas mature d'un jour au lendemain. On se rappelle de la saison dernière, dans tous les grands matchs qu'on a joué, Galatasaray, la demi-finale contre Feyenoord, beaucoup de grands matchs dans les fins de la saison, qu'on n'était pas une équipe encore mature pour ce type d'événement ou ce type de niveau de jeu. On est très autocritique et ça, c'est une marge d'amélioration importante de l'équipe, mais nous sommes dans la bonne direction.
Pablo, pour revenir sur ce match, est-ce que le rouge de Gigot était justifié et juste, est-ce Jérôme, que vous étiez content de l'arbitrage? Parce qu'il y a eu pas mal de débats là-dessus.
Pour compléter ta question, Igor Tudor, aujourd'hui en conférence de presse, a dit que l'arbitre avait surtout sanctionné l'intention qui était mauvaise. Mais si Neymar n'avait pas eu cette réaction, cette scène qu'il a fait, s'il avait eu une réaction normale, il n'y aurait sans doute pas eu carton rouge, mais carton jaune.
Nous, au niveau des clubs, nous sommes un club qui n'aime pas parler d'arbitrage. On ne rentre pas dans les polémiques. On rentre dans beaucoup de discussions en privé avec les instances, avec les gens qu'on doit travailler. Dans les moments qu'on n'est pas content, on fait savoir qu'on n'est pas content. Mais je crois que dans le football de 2022, on a superé tout ce type de questions et de polémiques qui viennent du club, parce qu'on doit travailler tous ensemble et bien être critique, bien critiquer, bien défendre les positions, mais dans une façon constructive. Un carton rouge, on peut commenter les événements du match. Pour moi, c'est une action. C'est une action qui, vu à vitesse réelle sur le terrain, il y a une interprétation différente de ce que te disent les images. Après, c'est une question d'analyser les images avec l'avantage que ça te donne la VAR. Il n'y a pas de contact. C'est une question si les joueurs ils continuent en pied, c'est une chose. Si les joueurs ils tombent, c'est une autre chose. Si on voit en vitesse réelle, l'arbitrage est compliqué.
Bon, bah, écoutez, c'est bien déjà d'avoir ce rendu-là. Maintenant, moi, on va parler du terrain, on va parler du groupe. Moi, je suis souvent aussi critique sur la gestion de Tudor, de Payet et de Gerson. Et vous l'avez dit, hein, en répondant à Jean-Michel tout à l'heure, que physiquement, je vous ai trouvé même supérieur au Paris Saint-Germain, athlétiquement, physiquement, ça, il y a pas de problème. On a senti que cette équipe marseillaise, elle était vraiment au niveau athlétique. Par contre, il y a des problèmes techniques dans cette équipe. On l'a vu dans les 30 derniers mètres, c'est là que ça se gagne souvent, qu'il faut être très, très efficace. Ce que peuvent être Payet et Gerson, et ils l'ont montré tout au long de l'année dernière, ça doit vous contrarier cette gestion de ces deux joueurs-là, parce que maintenant, quand ils jouent et quand le peu de temps de jeu qu'ils ont, ils ne sont pas bons.
Jamais un président peut être contrarié des cas individuels. Il doit donner toujours la liberté à son coach de prendre les meilleures décisions. Ça, c'est une question qui, pour moi, se défend de l'autorité des coachs face à un vestiaire.
Oui, mais après, président, vous aimez Dimitri Payet. Vous nous l'avez dit l'année dernière. Vous me l'avez dit. Vous le placez très haut dans la hiérarchie. Je me souviens. Votre discours, président, sur Dimitri Payet, je me souviens, vous aviez dit c'est un des meilleurs deuxièmes attaquants du monde. Vous le placez très haut, ça doit vous contrarier de le voir dans cette situation aujourd'hui quand même.
Ça contrarie, c'est contrariant, non. Pour moi, c'est une question toujours que je tiens mes principes dans ma tête, qu'un joueur il doit s'adapter toujours au collectif. La unique chose qui compte sont les résultats collectifs, le collectif, comment mettre en place les meilleurs 11 à disposition. Après, c'est à tous les joueurs à se mettre à disposition. L'attitude de Dimitri Payet cette saison, c'est irréprochable. Aujourd'hui, j'ai regardé l'entraînement. Il a fait un niveau d'entraînement que c'est de haut niveau. Il cherche de se mettre toujours à disposition de ces nouveaux mécanismes offensifs de jeu avec un jeu totalement différent. Après, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs en Europe qui jouent ce type de jeu. C'est très compliqué de jouer un contre un sur tous les terrains. Ça, c'est une chose qu'il a besoin d'une période d'adaptation. Pour des joueurs de 20 ans, naturellement, c'est plus facile. Pour des joueurs qui sont 35 ans, ils mettent encore plus de temps, mais on peut dire
c'est peut-être parfois
que
impossible,
la motivation
Pablo aussi.
Qu'il a... Non, je vous dis, l'attitude qu'il a, Dimitri Payet, à chercher de rentrer dans tous les mécanismes collectifs de l'équipe, c'est quelque chose de très intéressant et c'est quelque chose que je tiens à dire.
D'accord, bah c'est bien. Merci de votre franchise là-dessus. Président, on est aussi avec Juninho, bien sûr, une des légendes du football mondial. Juni, tu as un mot pour le président Longoria?
Hola Pablo, qué tal?
Boa tarde, Juni.
Boa tarde. Non, mais moi, en fait, j'ai une question par rapport aux relations avec les joueurs. Est-ce que, comme président, vous permettez-vous avoir des intimités avec certains joueurs de l'effectif ou vous croyez que, comme président, il faut toujours garder une certaine distance? Quelle est votre pensée concernant ça?
Pour moi, ce n'est pas une question de distance, c'est une question d'avoir un message unique. La chose la plus importante d'un président ou d'un directeur sportif face à ses joueurs, c'est lequel que le club ait un message unique. Du directeur sportif, du coach, du président, dans le moment que le message est unique, tu peux faire des conversations individuelles avec tes joueurs parce que c'est une conversation partagée et que ça défend toujours l'autorité du coach. J'aime pas avoir ces conversations individuelles sans une pensée partagée pour tous les membres du quotidien que doit faire la gestion des joueurs.
Pablo, ouais. Pablo, j'ai à vous entendre, et c'est pas plus mal, hein, vous défendez le club, à vous entendre, le club est bien plus haut que tous les joueurs. Donc s'il y a un joueur qui n'est pas bon, bah, il s'en va en fait. Qui n'est pas, bon, pas bon et qui n'est pas content, attention.
Ça, c'est le principe de hiérarchie et de légitimité d'un club et d'un coach.
La hiérarchie dans un club. Pablo Longoria, le président de l'OM, invité exceptionnel de Rotten sans flamme. On a encore plein de questions à vous poser dans une seconde sur RMC dans Rotten sans flamme. Restez avec nous, à tout de suite.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
18h18 sur RMC, toujours dans Rotten sans flamme, un Rotten sans flamme exceptionnel parce qu'on a l'honneur d'avoir Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille avec nous, avec Juninho bien sûr aussi, avec Jean-Michel Larquet, avec Jean-Louis Tour. Jean-Louis, ben on continue notre interview. Écoutez, président, on a parlé du très bon début de saison. Là, ça, il va y avoir une coupure avec la Coupe du Monde, même s'il reste encore quelques matchs à gagner pour l'OM. Et vous savez que, bah déjà, je vous adore. Je trouve que vous révolutionnez un petit peu, un petit peu beaucoup même le poste de président et de directeur sportif, ce que vous aviez avant. Vous êtes un magicien pour moi. Je peux pas imaginer, quand on parle du mercato d'hiver, que vous n'y ayez pas pensé à Ronaldo dans la situation où il est aujourd'hui.
Bon, tout d'abord, merci. On rentre toujours dans des conversations qu'on a passées pendant l'été. Par des moments, c'est vrai qu'il y avait un état d'humeur que c'était pas au meilleur dans les moments que tu fais une transformation d'un club et un projet. Ce qu'on doit penser tout le monde, c'est une question que c'est très clair. Non, le football, c'est fait avec les moyens que tu as à disposition. Ce qu'on a, c'est un projet où tout le monde doit se mettre à disposition d'un collectif et avec un équilibre économique, parce que les résultats, il doit être dans le terrain. Et tu dois faire tout pour faire les meilleurs résultats dans ton équipe, chercher toujours à comment améliorer ton équipe, mais avec la stabilité financière. Les résultats économiques maintenant dans le football de 2022, c'est très important. Il faut travailler avec beaucoup de têtes, avec beaucoup de contextes, savoir comment sont toutes les situations pour mettre un club dans une situation économique qui soit favorable et pérenne. Ça permet de faire agrandir le club.
Mais président, alors à vous entendre, Ronaldo, c'est impossible. Et financièrement, c'est impossible. Mais est-ce qu'il n'est pas prêt à faire des efforts, vu que la situation qu'il vit en ce moment, il y a beaucoup de frustration et qu'il a peut-être envie de finir en boulet de canon. Il a connu Tudor en plus. Je pense que ça peut... il peut y avoir une petite ouverture là-dessus, non?
À dire la vérité, c'est une question que pour moi, parler des joueurs individuels encore en octobre, quand il y a une Coupe du Monde, il y a encore tout le mois de décembre, que c'est comme une deuxième pré-saison. J'ai dit qu'on est loin décider comme ça des grands stars, des joueurs individuels. On est plus pour les joueurs collectifs qui nous donnent de la performance individuelle au service d'un collectif.
Oui, mais président, vous avez quand même pris Sanchez qui est quand même une star. Hein, et on l'a vu quand il est arrivé, le plaisir des supporters, comment il a été reçu. Et il vous le rend bien sur le terrain parce qu'il est très bon. Voilà, les gens aussi à Marseille rêvent de ça, de nous. Alors, je ne dis pas, là, j'insiste sur Ronaldo, mais... c'est plus pour essayer de voir un peu plus large. Est-ce que vous êtes capable, économiquement, de renforcer cette équipe au mois de janvier pour aller chercher des peut-être des titres ou aller chercher encore plus haut.
Surtout
que
s'il y a
les
qualif en Ligue des Champions.
De exactement.
Il y a des questions qui sont importantes et que je tiens à remarquer. La première chose, avec Alexis Sanchez, nous, qu'on parle avec un joueur individualiste, avec un niveau de star, etc. Il faut se rappeler de la dernière saison qu'il a fait Alexis Sanchez avec Antonio Conte, que peut-être que soit l'entraîneur le plus demandant en Europe. Si on prend cette saison qu'il a fait avec Antonio Conte, c'est quelque chose d'extraordinaire à l'Inter, avant de la saison dernière avec Simone Inzaghi. Il y a une deuxième question. Il y a des possibilités de faire des mercatos d'hiver. Nous sommes toujours ouverts à faire ça. Le club est dans une situation économique dans ce moment que c'est stable. C'est une bonne situation économique. On peut finir la saison avec un résultat économique que c'est bon. Il y a de la disponibilité. C'est que c'est la vérité. On doit analyser le mercato. Est-ce qu'on peut améliorer l'équipe? Comment ça va se passer une saison tellement particulière avec des pré-saisons? Il faut faire beaucoup d'analyses. Il y a la question, on est toujours ambitieux. On veut améliorer toujours cette équipe. Peut-être avec en qualification en Champions League, on va voir que ça nous donne de l'argent. Peut-être avec la vente de quelques joueurs qu'il n'y a pas beaucoup de temps de jeu effectif, et on peut décider de faire ça pour trouver de comment améliorer l'équipe. Il y a 100 000 stratégies. Ce qu'on doit faire toujours, c'est voir comment on peut améliorer l'équipe parce qu'on est ambitieux.
Donc, vous dites aux supporters qu'il y aura de l'argent au mercato pour recruter, c'est ce que ça veut dire.
Ce n'est pas qu'il y a un enveloppe ou pas un enveloppe. On doit faire du football. Ça, c'est la vérité. C'est qu'on pense encore dans le football comme dans les 90. Il n'y a pas des enveloppes. Non, plus concret, il y a des possibilités économiques. Tu prends plus de risques, moins de risques, tu fais plus de résultats parce que peut-être que si on fait un investissement, je ne sais pas, et tu passes en huitième de finale ou tu fais les compétitions européennes, le retour de cet investissement, c'est à cause supérieure. Il faut toujours prendre des risques et faire des décisions dans le football. Mais en plus, ça ne sont jamais deux.
Puisque vous parlez de joueurs en manque de temps de jeu qui pourraient peut-être avoir un bon de sortie, est-ce que ça concerne Gerson?
Dans ce moment, Gerson, c'est un joueur qui doit retrouver sa place dans l'équipe. Ça passe pour le travail quotidien. Gerson, on se rappelle, la saison dernière, dans ce moment, il a vécu une période similaire où il était en calme dans ses prestations. Après, Gerson, avec son travail quotidien, qu'il a très bien travaillé, il s'est mis à travailler avec une mentalité très positive. Dans ce moment, Gerson s'est récupéré, il est devenu un des meilleurs joueurs à Ligue 1 dans la fin de la saison dernière. Maintenant, dans les moments de difficulté, tu veux le vrai professionnel. Gerson, c'est un joueur avec une qualité technique extraordinaire, avec la capacité de jouer dans cette équipe. On croit beaucoup à Gerson et on croit qu'il va faire revertir avec le travail quotidien sa situation, parce qu'après, ça met rectocratie en équipe.
D'accord, donc le but c'est quand même qu'il retrouve son niveau sur le terrain et ça veut dire que vous comptez sur lui cette saison. Question hors foot, mais qui a quand même son importance, Pablo Longoria. Jacques-Henri Hérault a quitté son poste au conseil de surveillance de l'OM et il va également quitter son siège au conseil d'administration de la Ligue. Est-ce que ça pourrait vous intéresser de le remplacer? Est-ce que selon vous le président de l'OM se doit d'être au conseil d'administration de la Ligue?
Il y a des questions toujours, non? La Ligue, ça fonctionne autour d'un mécanisme d'élection des membres des conseils d'administration qu'il faut toujours respecter. La chose normale, c'est toujours de se positionner parce qu'on veut un Olympique de Marseille fort dans les institutions. On veut que l'Olympique de Marseille aille une voix dans toutes les différentes commissions qu'il y a à la Ligue, même à niveau européen. On croit qu'on peut participer dans ces moments que c'est très important pour le football français, avec une négociation des droits de télé en 2024, avec un horizon temporaire, avec les projets avec CVC, que c'est très important aussi, de comment on peut développer tous ensemble le football français, avec des différentes idées. On est jeune, on est une équipe dirigeante qui est jeune, avec des idées peut-être différentes, on est des personnes de différentes
Donc vous allez vous porter candidat?
Je crois que l'Olympique de Marseille doit être toujours représenté, oui.
Ok. Autre question, Pablo Longoria, qu'est-ce que vous pensez du niveau de l'arbitrage en France? Jérôme est très dur sur l'arbitrage, il nous dit régulièrement qu'il y a un vrai souci. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? En plus, vous venez d'une culture différente de la nôtre, vous avez connu plein d'autres championnats, donc votre regard est intéressant.
Je considère que le niveau individuel des arbitres, c'est un très bon niveau. Et attention, pour moi, le grand problème d'arbitrage français, c'est qu'il y a très de distance maintenant entre les consignes des arbitres pour arbitrer les championnats de Ligue 1 et les consignes qu'ils reçoivent des arbitres internationaux pour arbitrer en Europe les matchs de compétition européenne. Pour moi, c'est un des problèmes les plus importants. Le deuxième problème, il y a une utilisation du VAR, que c'est complètement différent, comment il l'a fait ici en France et comment c'est fait à l'étranger. Ici en France, ça, il y a la perception, c'est mon avis personnel, et après, avec toute l'humilité, on peut discuter avec tout le monde, qui est ouvert en discussion. Pour moi, il y a un problème aussi avec la sensation que l'arbitre met en discussion la décision d'arbitre principal. Le VAR, ce n'est pas considéré comme un élément qui aide à prendre de meilleures décisions, c'est comme un élément de correction. Ça, c'est une question que je crois, après avoir vécu le VAR en Italie et en Espagne, je crois que c'est quelque chose que ça m'a étonné depuis que je suis arrivé ici.
Pablo, voilà. Restez avec nous encore quelques minutes parce qu'on a Guillaume et c'est un supporter de l'OM qui tient absolument à vous féliciter pour tout ce que vous faites à Marseille. C'est ça la magie des RMC, on vous met en contact direct, vous qui êtes supporter de club de foot, avec ceux qui font votre club au quotidien. Et en plus, Jérôme a une dernière question. Ouais. Donc là, restez avec nous vraiment quelques minutes. Merci Pablo, à tout de suite.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h31 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme, la deuxième demi-heure de Roten sans flamme, et on continue et nous fait le plaisir, Pablo Longoria, d'être resté un petit peu avec nous encore, il est là. On est avec Jean-Michel Larquet, on est avec Juninho, on est avec Jean-Louis Tour. À 18h45, ne ratez pas, c'est le moment de Julien Cazard, oui, avec son Cazard enchaîné. Mais là,
avec le retour du président du Sénégal d'ailleurs à vous annoncer, donc soyez bien là dans un quart d'heure. Mais effectivement, Jérôme, les dernières minutes avec Pablo Longoria, le président de l'OM. On remercie Florent Germain d'ailleurs qui assure la connexion.
Bravo Flo, bravo, il est là le fraté.
Et je vous rappelle qu'on a deux places pour Marseille-Tottenham à vous
Pablo,
offrir.
Pablo, vous en êtes content de Flo Germain?
Bon, on a une bonne relation. En plus, on peut parler un peu en espagnol. Et ça, je crois que ça lui fait plaisir de parler en espagnol.
Vous me dites, hein, dites-moi la vérité, sinon je le vire. Hein.
Non, c'est très bien. En plus, bon, parler en espagnol quelquefois, c'est bien. Hein.
Bon, ça va.
Alors, je vous disais, on a deux places pour Marseille-Tottenham. Pour les gagner, vous envoyez RMC par SMS au 732-16. RMC au 732-16. Guillaume est donc là. Lui, il a fait le 32-16. Et il voulait vous parler, Pablo.
Salut, Guillaume.
Bonsoir à toute l'équipe, bonsoir président.
Voilà, bon, on te laisse avec bonsoir, ton président, Guillaume.
Non, mais oui, je voulais vous féliciter parce qu'on ne se rappelle pas et on ne le répète pas assez que vous avez pris la présidence juste après que la commanderie était en feu quand même à un moment donné, donc ce n'était pas tout à fait les bons résultats. Et je n'incrimine pas du tout le président précédent dans tous les débordements. Les débordements
sont dus nul, hein, tu peux,
à désilluminer, c'est autre chose. Ça, c'était pas le but de l'appel. Je voulais vous féliciter parce que vous êtes parti de directeur sportif pour arriver à président. Moi, ma question, elle était un peu plus personnelle que celles qui ont été brillamment répondues de votre part juste avant. C'était de savoir justement si, en passant président et en étant, entre guillemets, toujours directeur sportif, parce que techniquement, le directeur sportif, même s'il y a un responsable du football, on ne sait pas vraiment qui c'est. Quand il y a un transfert qui est fait, on dit « Ah, bravo, Monsieur Longoria, parce qu'il a fait le transfert ». Est-ce que ce n'est pas compliqué d'avoir les deux étiquettes, de réinventer un poste, parce qu'on connaît d'habitude un entraîneur ou un directeur sportif, et s'il fait les deux, c'est un manager. Un président directeur sportif, c'est compliqué de savoir quel est le titre à lui donner, parce que normalement, ça n'existe pas. Donc, est-ce que c'est pas compliqué? Qu'est-ce que vous préfériez lâcher comme poste, le poste de président ou le poste de directeur sportif?
Bon, tout d'abord, merci beaucoup pour votre parole. Ça me touche. Deuxièmement, et c'est assez important de faire... passer les choses claires, non, et bien expliquer à tout le monde comment on fonctionne et les projets, vraiment. La saison dernière, pour moi, c'était un moment, on peut dire, compliqué, non, dans le sens qu'on avait ces casquettes de président, parler beaucoup avec l'entraîneur, faire la gestion du coach. Ça, c'était une situation dans laquelle, la saison dernière, j'ai fini avec beaucoup de fatigue. Ça, c'est la vérité. Tout le monde ici, à l'intérieur du club, il connaît. Après, on a pris la meilleure décision pour comment bien structurer le club, avec un directeur qui doit faire la gestion du coach dans son quotidien, que c'est David Frio, qu'il est en contact avec les joueurs, avec les coachs, qu'il est présent à tous les entraînements. C'est comme le chef du club qui est en contact continu avec les coachs et les joueurs. Hier, par exemple, il a dîné avec Igor Tudor, ils se sont amusés. Bon, il m'a raconté un peu la soirée. Après, il y a Javier Rivalta, qu'il est venu, qu'il était à Parme, il a travaillé à la Juventus, Manchester United, Zenit. C'est le directeur de football. C'est lequel qui doit avoir la stratégie de football à niveau des clubs. Pour l'académie, pour l'équipe première, P1, penser qu'est-ce qu'on doit faire et réfléchir avec une vision différente de quelqu'un qui est mélangé dans le quotidien du club comme le directeur sportif. Après, j'arrive avec ambition, toujours football, parce que je suis né comme recruteur. Mais ces visions de football, c'est lesquelles que ça me permet peut-être de prendre des décisions qui connectent les décisions qu'on prend du club à niveau d'institution, à niveau de business, à niveau de football, que soit tout connecté autour du football. De prendre aussi quelques décisions sans être dans le quotidien, que ça me permet de prendre de la hauteur pour prendre la meilleure décision. Aider à Javier, à David, avec des petits détails dans la gestion, mais surtout intervenir quand les problèmes sont forts ou quand il faut prendre des décisions importantes. Et bien donner de l'argent à Javier et à David pour faire une équipe.
Ok, ben bah voilà, Guillaume, tu as eu ta réponse voilà. de Pablo Longoria. Guillaume, tu avais une dernière question ?
Surtout, pardon, oui. J'aimais, pour être correct, et bien répondre, si, comment je me vois dans le futur, j'aime bien la direction que le club est en train de prendre. Je crois que nous sommes en train de nous organiser comme une bonne institution et je suis très content avec mon équipe de travail maintenant.
Président, d'accord. Donc ça ne sera pas votre dernière année à l'Olympique de Marseille, à vous entendre.
Bon, j'espère de continuer ici pendant tout le temps que les résultats ça nous permettent ou la confiance de notre propriétaire.
Ok, bah, c'était ça, Jérôme ?
Président, non, moi c'est ma dernière question vraiment. Vous avez répondu aux gens qui vous entourent aujourd'hui dans le sportif. Il y a beaucoup de rumeurs aussi ces derniers temps. On a lu beaucoup de choses, même encore aujourd'hui, comme quoi que l'ambiance serait tendue, qu'il y aurait un peu de changement au sein du club. Même au niveau des joueurs, on a vu par la force des choses, Tudor est arrivé, l'entraîneur. Après, les joueurs, l'équipe, elle a quand même changé aux deux tiers par rapport à l'année dernière. Deux tiers de l'équipe titulaire, je vous parle, par rapport à une équipe qui avait fini deuxième. Je trouve que cette instabilité... C'est contre la réussite dans le football. Alors pour l'instant, vous y arrivez bien et c'est pour ça que vous avez le surnom d'El Mago, le magicien. Mais est-ce que on peut retrouver un peu plus de stabilité dans les prochains mois en termes d'encadrement de l'équipe, en termes de joueurs ? Vous pouvez nous en dire plus là-dessus ?
C'est nécessaire toujours la stabilité dans le football. C'est nécessaire dans les moments que tu es en direction, que tu prends et que ce soit bien concret. Normalement, dans un projet de football, tu prends tous les changements hors du sportif dans un premier moment. Et après, ça vient le sportif, que c'est toujours la chose la plus compliquée. On avait une idée d'échanger, de devenir un club de plus en plus européen. Ça, c'était une volonté du club. Une volonté parce que je crois qu'on a raté beaucoup de la croissance qu'il a vécu le football pendant les dernières saisons. On a raté beaucoup de ces croissances, peut-être autour des résultats sportifs, un club pas performant dans la vente des joueurs, pas beaucoup de joueurs qui sont sortis du centre de formation. Ça te porte à avoir une situation que c'est compliquée et tu cherches de faire des changements pour améliorer les résultats sportifs. Après, c'est comment construire les clubs et comment construire l'institution. On a pensé autour d'un modèle de football qui s'est basé sur l'exigence, le travail, l'ambition et la rigueur. On a commencé ça avec les joueurs et ça, comme tous les changements dans la vie, ça te porte à avoir conflits, des gens qui sont habitués à travailler dans une façon déterminée. Après, faire changer les gens, c'est toujours compliqué. Ça te porte à avoir parfois des conflits ou des gens qui sont plus contents ou moins contents. La même chose s'est passée dans les sportifs. On a vécu bien la situation parce que beaucoup de gens ils ont compris que c'était la direction nécessaire pour faire agrandir les clubs. Maintenant, nous sommes dans un processus de transformation dans les clubs. Tous les changements, ils font peur. C'est nécessaire la stabilité ? Absolument oui, dans l'intérieur d'un club de football. Mais il faut avoir une direction et cette direction se baser sur un niveau d'exigence extrême et avoir une capacité de travail, d'exigence, de rigueur que ça va nous porter à avoir des résultats dans le terrain et hors le terrain.
Président, l'ambiance au club n'est pas tendue alors ?
C'est ce qu'affirme l'équipe ce matin. Hein, plusieurs témoins qui parlent d'une ambiance délétère.
À dire la vérité, normalement, ils sont plus bons, les gens qui sont moins contents, que les gens qui sont contents. Ça, c'est naturel dans la vie. Mais il y a une deuxième question. On parlait cet été, dans l'effectif. Les joueurs, ils ne sont pas contents. Je crois que je pouvais vous dire que c'était 3 ou 4 joueurs, pas 20 joueurs.
Okay. Bon, donc c'était une minorité. Mais ouais. Forcément, c'est toujours cette minorité qui s'exprime le plus et dont on relaie les paroles. Voilà, c'est ça aussi ce que vous voulez dire, Pablo.
Normalement, quand tu es content, tu ne prends pas la parole.
Voilà, c'est ça.
Tu es très content.
Pablo, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Pablo. Merci vraiment bonne saison. De cet échange, de répondre à notre invitation. Et puis, on va se reparler déjà pour le 8e de finale de Ligue des Champions, ça c'est sûr.
On verra si ça passe pour l'OM. Merci Pablo Longoria, merci de nouveau à Florent Germain qui nous a permis donc de discuter avec vous en qualité optimale pendant presque 40 minutes maintenant. C'est quand même un sacré personnage, Pablo Longoria. Juni, je ne sais pas quelle opinion tu as de lui, mais il dénote, on n'est pas habitué à ce genre de profil dans le foot français.
Bah, je pense que les choses elles étaient bien claires. La chose que j'y retiens, c'est l'axe de qualité de travail. L'exigence, ce que j'ai compris, oui. C'est que quand il est arrivé au club, il n'y avait pas cette mentalité-là. Il fallait un peu de temps pour changer, mais surtout changer certains joueurs. Donc, avant tout, c'est le travail. Moi, je pense que c'était bien clair. Certaines choses, ils ne peuvent pas parler ouvertement, mais ils démontrent qu'il a amené les gens, qu'il a la confiance pour travailler avec lui. Ça, c'est aussi important. Avoir fait directeur sportif, avoir fait recruteur, ça l'apporte encore plus de savoir-faire. Il a dit tout à l'heure aussi, moi j'ai vu l'entraînement et j'ai vu qu'il paillait tes performances. Ça veut dire qu'il regarde aussi les entraînements. Donc plusieurs choses que c'était intéressant, bien sûr. C'est quelqu'un qui est passionné, mais qui ne démontre pas trop, qui est content d'être là. Et pour moi, je pense qu'il est très content d'être président de Marseille. Et pour lui, il va continuer pour longtemps. Ouais. Mais ce que je garde, c'est l'axe de travail, l'exigence des entraînements. Et c'est la chose plus importante pour tous les clubs. Et c'est dommage qu'on ait obligé à parler de ça en France.
C'est incroyable
qu'on ait obligé à parler de ça.
C'est la première étape à chaque fois en France. Oui, vas-y Jean-Michel.
Il y a aussi une phrase qui ne vous a pas échappé, c'est qu'il a dit la décision finale, c'est moi qui la prends.
Oui.
Évidemment, j'écoute le directeur sportif, évidemment, j'écoute le directeur du football, mais la décision finale, c'est moi qui l'appelle.
Oui, comme Jérôme dans Rotten sans flamme.
Ce n'est pas. Non, mais ça veut dire aussi que c'est bien d'avoir un président qui connaît le football, qui sent le football. Et il a rajouté, en plus, dans ma position, j'ai un peu de recul. Donc, quand je prends la décision, j'ai moins de chances de me tromper que si j'étais dans le feu de l'action. Donc, c'est pour l'instant un système qui marche pas trop mal.
Jean-Michel, lui c'est monsieur. Un cador. Lui, c'est un cador. L'autre, c'était un nul, celui d'avant. Donc,
Jacques Henri Hérault.
T'es pas obligé. T'es pas obligé. Voilà.
T'aimes bien tirer sur l'ambulance, hein. Surtout quand l'ambulance est passée et n'est plus là, Jérôme.
Bah oui.
C'est fini. L'ambulance, elle est garée au parking. Là, elle est chez elle.
Ah, excuse-moi, mais ce monsieur, on n'a plus envie de le voir dans le foot. On l'a encore vu.
Oui, il n'est plus dans le foot.
Ah bah si, il était dans le carré. Ah bah si, pour se montrer au Paris Saint-Germain, à Paris Saint-Germain-Marseille, il était encore là. Hein.
Oh bah après, il a le droit d'aller voir les matchs quand même et d'être invité.
Franchement, qu'il retourne à Disney,
il serait le bienvenu. Il serait le bienvenu dans Rotten sans flamme. Dans une seconde.
Il fait quoi, Mickey ? Qu'est-ce qu'il fait ?
Ouais.
Non, il avait un poste à responsabilité, dis donc.
Bah maintenant, il va faire Mickey.
Dans une seconde, le casar enchaîné. A tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Rotten sans flamme.